Au nord Katanga, les mines constituent encore un danger pour la sécurité des populations. Cette affirmation est de King Goma, coordonnateur national des enquêtes et éducation au risque des mines à Adam Church Head. Les travaux de nettoyage des surfaces minées et les travaux de démolition des engins non explosés sont en cours dans les localités de Kabalo. La présence des mines et des engins non explosés est non sans conséquence sur la vie des populations. On en parle tout à l'heure avec Max Well Kirley, chef du bureau des Nations Unies en charge de la lutte anti-mines, et King Goma, coordonnateur national des enquêtes et éducation au risque des mines à Dunchurch Head. Mais pour l'instant, nous vous proposons de suivre ce reportage de François-Xavier Mibé.
L'ouverture de l'axe Katelua-Katutu est une victoire sur les mines. C'est en ces termes que l'ancien commissaire des districts du Tanganyika, Alexis Katempa, s'exprimait lors de l'ouverture de l'axe Katelua-Katutu après les travaux de déminage.
Nous venons de désenclaver Kabalo parce que c'est la route presque nationale qui va servir aussi d'autres coins. Et nous lançons aussi l'appel à la population de bien garder la route, de continuer à veiller, à être vigilant aussi partout où il y a encore quelques engins non explosés, d'une manière un peu urgente que cette population puisse amener l'information à l'autorité locale pour que nos partenaires continuent à œuvrer dans le même sens.
L'axe Katelua-Katutu constituer une surface dangereuse à cause des mines dans les territoires de Kabalo. Pour la petite histoire, tenez. Kabalo a été la ligne de front de belligérants pendant la période de troubles. D'une part, l'armée du RCD appuyée par les troupes étrangères, et d'autre part, l'ex-armée du gouvernement avec ses alliés. Plus de 500 bombes sont tombées sur la tête de Kabalo. Et Kabalo est pour les ONG de déminage une zone dite dangereuse à cause du nombre excessif de mines parsemées sur le territoire. La localité de Kabumba, dans les territoires de Kabalo, est pour l'ONG Dunchurch Head le plus grand champ des mines au district du Tanganyika. L'ONG danoise Dunchurch Head indique que la ville de Kalemi est à présent hors du danger des mines, bien que de rares cas soient signalés dans les secteurs. Kalemi a été souillée par des engins non explosés. Une situation qui ressemble fort à celle des localités de Kongolo et Moba. Tout en revenant sur Kabalo, disons tout de suite que les travaux de nettoyage en cours sur les tronçons Kasinge et Kabumba ont permis au dernier mois de découvrir 27 mines antipersonnelles. Par ailleurs, la localité de Manono constitue une zone dangereuse sur les tronçons de Kaziba-Muyumba. 6 victimes viennent d'être enregistrées sur cette route, dont le dernier cas en date remonte au 12 mai dernier avec la mort d'un homme qui a sauté sur une mine. Les activités de pêche, d'élevage et d'agriculture tournent au ralenti à cause des mines dans les territoires des Manono. Il y a aussi sur ces tableaux noirs le village d'Njiba à 27 km au sud d'Ankoro et le long du fleuve Congo. Le Nord Katanga compte 222 victimes des mines depuis 2004 à nos jours pour 126 accidents dont 51% des cas concernent les enfants. Le reste des victimes sont des agriculteurs et des pêcheurs. Ce qui perturbe les activités de production dans les villages, au départ appauvris par 2 années de guerre, fait observer King Ngoma, le coordonnateur national des enquêtes et éducation au risque des mines à Dunchurch Head. Le territoire des Manono vient en seconde position après Kabalo. Il y a aussi la localité de Nyunzu. Toutefois, les deux dernières localités représentent des réalités tout à fait différentes, telles que Nyunzu possède plusieurs zones minées, mais en petite surface dite dangereuse, tandis que Manono représente une carte dont la situation reste préoccupante. Manono compte moins de zones minées, 4 seulement, mais en très grande surface minée. Sur ces tableaux sombres des mines, une note positive tout de même. Le territoire des Congolos constitue pour les ONG de déminage la seule surface la moins touchée par les problèmes des mines au nord Katanga. De Kalemi, François Xavier Mibé pour le compte de Okapi Action.
Merci François-Xavier Mibé pour ce reportage. Et vous savez d'ailleurs par rapport aux mines, Monsieur Maxwell Kirley, directeur du service d'action anti-mine au sein des Nations Unies, lors de son séjour ici à Kinshasa, a accordé une interview à notre confrère Ewin Yang du site web de la MONUC par rapport à cette question des mines. Nous vous proposons de suivre cet entretien.
Quelle est la différence qui existe entre une mine antipersonnelle et un engin non explosé?
Les engins non explosés sont des munitions de tout genre laissées derrière après le conflit, mais qui représentent toujours un danger, une menace. Il peut s'agir d'obus d'artillerie ou des grenades qui n'ont pas explosé, mais qui restent parfaitement capables d'exploser. Une des catégories principales de ces engins, pas nécessairement ici en RDC, ce sont les bombes à fragmentation. Celles-ci sont délibérément conçues pour rester derrière et exploser. C'est là, en grande ligne, la différence entre les mines antipersonnelles et les munitions non explosées. En ce qui concerne la RDC, nous pensons que les engins non explosés représentent la plus grande menace, comme c'est le cas ailleurs dans d'autres parties du monde.
Comment peut-on distinguer une mine antipersonnelle d'un engin non explosé? Les engins non explosés sont-ils plus larges que les mines antipersonnelles?
Pas nécessairement. Les mines antipersonnelles, aussi bien que les engins non explosés, peuvent être très difficiles à reconnaître, en particulier si ces engins sont restés là pendant longtemps. Prenez par exemple les mines antipersonnelles. Lorsqu'elles sont restées enfouies pendant un certain temps, elles sont recouvertes d'une couche de terre qui les rend très difficiles à détecter. Il en va de même des engins non explosés. Ce sont des objets qui se présentent sous diverses formes et, comme je l'ai dit, cela peut aller d'une grenade à un obus d'artillerie. Ainsi, l'éducation au danger des mines est une activité spécialisée qui consiste à dire aux gens à quoi ces objets ressemblent, en particulier ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec ces engins. Alors, le groupe le plus exposé au risque, ce sont bien sûr les enfants. Lorsqu'ils voient un objet, leur tendance naturelle est de le ramasser et le prendre pour un jouet. C'est pour cela que l'éducation des enfants exposés au danger est très très importante. Mais les mines antipersonnelles et les munitions non explosées sont très difficiles à reconnaître clairement.
Vous avez évoqué certains des risques que posent ces engins pour les populations, en particulier les enfants. Pourquoi ces objets sont-ils considérés comme un grand danger et qu'est-ce qui est fait pour empêcher que des incidents malheureux ne surviennent?
Les mines antipersonnelles et les engins non explosés peuvent avoir un impact très significatif sur les populations. Cela peut se présenter sous la forme d'une menace physique directe lorsque les gens ramassent ces objets et que ceux-ci explosent en tuant plusieurs personnes. D'autre part, ces objets peuvent avoir un effet indirect. En effet, quand une zone est contaminée, elle ne peut pas être utilisée pour l'agriculture ni pour toute autre activité de développement. De même, quand les routes sont contaminées, cela empêche le mouvement des personnes et des biens. Quand les sentiers sont contaminés, les mouvements sont limités. Les mines antipersonnelles et les engins non explosés peuvent ainsi avoir un impact significatif sur le développement économique d'une région. Par conséquent, l'une des choses que nous faisons est de lier le déminage aux autres activités de développement. Par exemple, il n'est pas bon d'apporter de l'aide à des projets agricoles ou d'irrigation entrepris dans une zone contaminée par des mines terrestres ou des munitions non explosées. Par conséquent, nous essayons toujours de travailler en lien étroit avec les autres travaux de développement pour voir si cela vaut la peine d'être soutenu. Par ailleurs, ces engins peuvent créer une atmosphère de peur et d'inquiétude parmi les populations. C'est pour cette raison que parfois nous nous employons à déminer une zone qui n'a peut-être aucune importance, mais qui peut se situer près d'une école ou d'un centre de population. Nous procédons au déminage d'une telle zone pour éliminer la peur au sein de la population locale. En somme, c'est un travail à trois dimensions, c'est-à-dire pratique, physique et psychologique, si je puis m'exprimer ainsi.
Okapi,
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 Okapi.
Nous parlons des dangers des mines antipersonnelles et merci à François-Xavier qui nous a présenté la situation au Katanga et particulièrement à Kabalo où on signale que c'est le plus grand champ des mines. Et pour en parler, nous recevons King Ngoma, coordonnateur national des enquêtes et éducation au risque des mines à Dunchurch Head. King Ngoma, bonjour.
Bonjour.
La première question, à quoi ressemble une mine antipersonnelle?
En fait, il est difficile de reconnaître ou identifier une mine antipersonnelle parce que les mines ont souvent plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs dimensions.
Oui.
Et souvent, les mines ressemblent aux objets naturels ou habituels qu'on utilise dans les maisons, dans les ménages. Et elles ressemblent aussi même aux plantes, aux fruits. Donc, il est difficile que je vous dise qu'une mine ressemble exactement, précisément à tel ou tel objet.
Et comment la population peut aujourd'hui reconnaître qu'elle est en face d'une mine antipersonnelle?
En fait, cela nous envoie à toute une activité que nous appelons éducation au risque des mines. Nous avons des équipes au sein du programme d'anti-terrorisme et d'action contre les mines qui sillonnent les communautés affectées pour donner les sessions d'éducation au risque des mines. Et ces équipes sont munies aussi des outils comme matériel pédagogique. Et nous essayons de dire aux gens que dans les communautés qui ont saisi des champs de bataille ou des postes de base militaire, et les populations ne devraient pas se mettre à ramasser n'importe quoi, tout ce qu'elles n'identifient pas.
Oui.
Et bien au contraire, s'informer auprès des autorités locales et des populations sur l'existence éventuelle des zones dangereuses. Et ces populations devraient aussi respecter les signaux officiels ou locaux utilisés pour marquer les zones dangereuses. Et toujours dans ces communautés-là, les passants ou les visiteurs ne devraient pas se tracer des chemins ou des voies propres à soi, mais bien plutôt fréquenter les voies habituellement utilisées par les populations locales. Et en fait aussi, si ces populations voient un engin qu'ils suspectent, elles peuvent donner l'information auprès des autorités et elles peuvent aussi la faire parvenir auprès des entités.
Alors, et pour le cas des enfants qui aiment bien ramasser des objets, qu'ils trouvent, ils pensent que c'est des objets pour s'amuser avec, quelles précautions à prendre pour les tout-petits?
En fait, il faut dire que parmi nos cibles à l'éducation des risques et des mines, il n'y a pas que des adultes, mais nous avons des séances particulièrement axées aux enfants. Vous savez, les enfants ont une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance, comme avait dit un auteur. Nous organisons des sessions spécialement axées aux enfants, avec tous les matériels didactiques pour essayer de suggérer leur conscience par rapport à ces dangers dans les milieux, les communautés qui avaient servi des champs de bataille ou des postes militaires quelconques.
Ouais, alors prenons le cas de Kabalo pour terminer. Si quelqu'un arrive à trouver un objet suspect, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que vous avez des numéros de contact ou c'est quoi votre adresse pour que les gens viennent rapidement vous passer l'information?
Oui, merci bien pour la question. Elle a vraiment une réponse qui est pratique, qui ne demande même plus une planification. Et présentement, nous avons des équipes permanentes à Kabalo, des déminages, des enquêtes et d'éducation au risque des mines. Et donc, les choses se passent tout simplement dans une manière telle que quand il y a une information, l'informateur passe auprès des autorités ou auprès du bureau des entités directement. Il communique et d'entité passe à l'action de marquage de la zone et programme dans 12 heures, 24 heures au-delà déjà l'activité de dépollution ou de déminage.
Voilà, King Goma, merci beaucoup pour ces informations. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur national des enquêtes et éducation au risque des mines à Dan Church Aid. Merci et à la prochaine.
Merci aussi, je vous en prie.